BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler budget. Hein. C'est la période, vous savez, que le budget 2020 sera présenté le 25 septembre prochain. On en parlera avec Gilles Carrez, l'ancien président de la commission des finances. C'est vraiment le grand budgétaire. Il est bien sûr député LR du Val-de-Marne. On en parlera aussi dans un instant, tiens, avec Jacques Chanu, qui est président de la Fédération française du bâtiment, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié ce matin une note de conjoncture. Ben, le bâtiment va, donc tout va bien. Mais évidemment, on va voir qu'il y a quand même quelques ombres, notamment à l'occasion de la présentation de ce budget. Et puis ensuite, dans une heure à peu près, on connaîtra exactement la composition de la Commission européenne. On en parlera et on va analyser tout ça avec Guillaume Clossa, qui est fondateur d'Europa Nova, qui est l'ancien conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne. Ça, c'était l'ancienne version. Mais tout de suite, place à l'info. Toute l'info, c'est avec Julien Rizzo. Bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. L'emploi salarié au deuxième trimestre a augmenté de 0,2% selon l'INSEE. Près de 46 000 emplois ont été créés dans le secteur privé, c'est un peu moins que les prévisions. Dans le détail, les créations d'emplois se stabilisent dans l'industrie et dans la construction. À noter que la fonction publique a recruté plus de 10 000 personnes sur la période. Et puis toujours selon l'INSEE, la production industrielle peine à rebondir. Elle a gagné 0,3% en juillet après une baisse de 2,3% le mois précédent. Le déficit public français devrait se situer autour de 2,1-2,2% selon le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Il s'agirait d'une baisse significative par rapport aux 3,1% attendus. En revanche, le déficit serait supérieur aux 2% initialement prévu par le gouvernement pour 2020 en raison des mesures prises suite au mouvement des Gilets jaunes. La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va dévoiler les portefeuilles des 26 membres de son équipe. Selon les agences de presse, le social-démocrate Frans Timmermans devrait récupérer le portefeuille du climat, tandis que la libérale danoise Margrethe Vestager obtiendrait le numérique. La française Sylvie Goulard devrait être en charge du marché intérieur. Le Parlement britannique a été suspendu ce matin jusqu'au 14 octobre, deux semaines avant la date prévue du Brexit. Une suspension dénoncée comme un scandale constitutionnel par le président de la Chambre des communes John Bercow. Hier soir, les députés ont refusé une nouvelle fois la tenue d'élections anticipées. Boris Johnson a prévenu, il ne demandera pas un nouveau report du Brexit en cas de no deal avec Bruxelles, malgré le texte voté par le Parlement la semaine dernière. EDF perd près de 7% en bourse. Sa filiale Framatome a informé l'entreprise que des composants de réacteurs nucléaires sur des matériels neufs ou déjà mis en service pourraient être défectueux. EDF n'a pas précisé sur quel site ces matériels avaient été installés, mais le groupe a confirmé mener des analyses approfondies à ce sujet. PSA n'a pas besoin d'un accord avec un autre constructeur sans viser une entreprise en particulier, qu'il s'agisse de Ford Chrysler ou d'une autre entreprise, selon Carlos Tavares. Le président du groupe a déclaré également au Salon Automobile de Francfort que PSA n'exclut pas de fermer des usines en Chine face au ralentissement du marché. Carlos Tavares a confié à BFM Business que les constructeurs automobiles doivent s'adapter à la période des transitions écologiques, une période qu'il caractérise comme étant darwinienne. Enfin, Eglasur, en redressement judiciaire, a reçu 14 offres de reprise hier. À l'issue du comité d'entreprise, la compagnie a indiqué qu'aucune offre n'est exécutable en l'état. Le groupe Dubreuil, propriétaire majoritaire d'Air Caraïbes, a indiqué avoir déposé une offre. Air France également a confirmé avoir déposé une proposition. Le titre Air France a perdu plus de 9% hier. Le CAC 40, à la mi-journée, il est en baisse. Il perd 0,4% à 5563 points. Et puis l'euro dollar à l'équilibre. 1 euro s'échange, 1,10 $.
Merci Guillaume. On vous retrouve à 12h30 pour un rappel des titres tout de suite. C'est Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment. Bah, quand le bâtiment va, bah, tout va. Donc tout va bien.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Jacques Chanu, merci encore une fois d'être là. Vous êtes donc président de la Fédération française du bâtiment. Vous avez présenté ce matin une note de conjoncture pour la rentrée, donc elle était assez attendue, et évidemment. Ben on voit qu'on redoutait qu'il y ait peut-être une situation qui soit plus difficile, et en fait pas du tout. Donc les chiffres sont plutôt bons, malgré, lorsqu'on regarde les chiffres sur la construction de logements individuels, du neuf, dépôt de permis de construire. Ben, pour l'instant, pour vous, en tous les cas, la conjoncture, elle est plutôt bonne surprise.
Oui, pour le moment, ça tient, et c'est vraiment une bonne surprise. Ça tient en termes de production, hein, de chantier, hein. Ça n'a rien à voir avec les mises en vente des promoteurs et autres. C'est pour le moment, ça tient, avec notamment une excellente surprise sur le marché de la maison individuelle, qui après s'est vraiment baissé et remonté. Et aujourd'hui, les chantiers sont là. Merci les banques, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la baisse du PTZ dans les zones rurales a été en fait compensée par des conditions bancaires de plus en plus souples pour les ménages modestes. C'est-à-dire qu'on voit que non seulement les taux sont bas, ça tout le monde le sait, mais les demandes, notamment d'apport, sont assez faibles aujourd'hui, demandées par les banques, et les durées de prêts sont toujours aussi longues, puisqu'on est à 225 mois à peu près en moyenne. Donc en fait, les conditions bancaires ont permis de garder une forme de solvabilité pour les ménages les plus modestes dans les zones un petit peu plus rurales. Donc oui, pour le moment, ça tient et c'est tant mieux parce que du coup, comme par hasard, hein, quand notre activité va, vous le dites, eh bien l'emploi va. On prévoit cette année de continuer d'embaucher à peu près 25 000 personnes.
25 000 personnes sur l'ensemble de l'année ?
Oui, 25 000 personnes sur l'ensemble de l'année. On est actuellement sur un rythme un petit peu plus rapide. On pense quand même que ça va se calmer parce que l'intérim est en baisse. Sur les 25 000, il y a 20 000 en CDI et 5 000 en intérim.
D'accord, c'est un point important. Deux choses par rapport à ce que vous venez de dire, Jacques Chenu. D'abord, je recevais Julien de Normandie, le ministre du Logement, qui a fait cette déclaration, qui a, du reste, a eu pas mal de retentissement, en disant, en fait, j'assume, c'est pour ça du reste qu'il y a moins de construction de logements neufs, j'assume le fait que ma politique, c'est qu'il faut que moi, mais il y a une maison individuelle. Vous nous dites, il y a plus de maisons individuelles. Ça veut dire que donc, la politique du logement, ça ne sert à rien ou quoi?
Je pense que c'était l'émotion de l'interview avec vous.
D'accord, ok, oui.
En fait, je crois que Julien de Normandie, le ministre, a précisé le lendemain à Bunus sa pensée. Il assumait le fait qu'il y ait moins de construction individuelle en zone rurale en investissement, c'est-à-dire en Pinel, et pas en PTZ. Et je pense qu'il a eu raison de le préciser, parce que le PTZ, c'est pour les gens qui achètent, les gens qui veulent vivre dans ces maisons. Et là-dessus, il me semble qu'il n'est pas de bonne politique de vouloir reconcentrer l'ensemble des propriétaires dans les métropoles ou les grandes villes, et puis délaisser ceux qui veulent continuer de vivre et travailler au pays et en construisant leur maison ou en achetant un logement. Donc le ministre a fait cette mise au point dès le vendredi en disant qu'il ne parlait que du Pinel, c'est-à-dire de l'investissement locatif et non pas des aides à l'accession.
Enfin, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est pas ce qu'il avait dit.
D'accord.
Je reconnais.
En plus, vous étiez là.
Absolument.
Donc vous êtes témoin. Donc bon.
C'est pour ça que ça m'a permis tout de suite de lui faire remarquer que sa pensée était sans doute un peu trop large sur.
Alors justement le PTZ, parce que là on est le dernier arbitrage. Oui. J'ai presque envie de dire c'est pour ça que vous êtes là aussi, Jacques Chenu, c'est pour faire passer des messages. Oui. Dernier arbitrage sur une éventuelle, dans le cadre du budget 2020, baisse du PTZ, nouvelle baisse du PTZ.
Suppression maintenant.
Suppression, voilà, exactement, sur des zones où on a le sentiment que c'est plutôt utile. Est-ce que vous avez réussi à convaincre le gouvernement de l'utilité du maintien du PTZ dans ces zones?
J'ai le sentiment que le ministre du Logement, Julien de Normandie, est persuadé qu'il faut justement profiter de cette période de taux courts pour installer une politique du logement à long terme, c'est-à-dire en maintenant une aide à un PTZ pour, encore une fois, principalement les ménages modestes dans ces zones-là. Je suis pas sûr qu'à Bercy, ils aient la même vision. Il va y avoir un arbitrage de Matignon, très clairement, qui aura lieu dans les jours qui viennent. Je pense qu'il faut quand même profiter du moment où les taux sont bas pour se dire que le coût d'un prêt à taux zéro pour l'État n'a jamais été aussi faible.
Aujourd'hui, on parle à peu près... Mais du coup, on a envie de dire qu'on n'a plus besoin de prêts à taux zéro puisque puisque c'est à zéro.
Mais comment... Le prêt à taux zéro, ce n'est pas le fait qu'il soit à zéro qui est important, c'est le fait qu'il y a un différé. C'est qu'on commence à le rembourser au bout de 10 ou 12 ans. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il remplace, c'est l'apport. Alors, certains disent, mais regardez les banques, ils demandent de moins en moins d'apport, donc le PTZ n'est pas utile. Ce qui est aussi un argument qu'il faut entendre. Il me semble qu'on ne peut pas construire une politique du logement qui est donc une politique au long cours, sur un effet conjoncturel sur les taux et les conditions bancaires. N'oublions pas que les banques, qu'aujourd'hui on remercie, sont eux dans l'œil du viseur de leur organisme de contrôle, de la BCE, où on leur reproche justement un engagement trop fort dans l'immobilier. Et que demain, avec le système qu'on appelle BAL 4, au lieu de mettre 2 euros de fonds propres quand ils prêtent 10 euros dans l'immobilier, on leur demanderait de mettre entre 4 euros et 4,5 euros. Donc ça veut dire que forcément les conditions d'attribution des prêts vont se durcir. Et donc, on ne peut pas, me semble-t-il, construire une politique du logement à partir d'un effet conjoncturel lié aux prêts.
Mais Jacques Chenu, je vais prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'on a construit une politique du logement en France uniquement à coup d'aide et d'aide fiscale. Et qu'à la limite, on ne peut pas construire une politique du logement qui est uniquement sur les avantages fiscaux.
Non,
parce qu'on est un peu dans le corner dans lequel nous trouvons. Ça coûte très cher et en même temps...
Il y a deux manières de construire une politique du logement. C'est soit effectivement en mettant en place un système d'aide, d'accompagnement, de solvabilisation, appelez-le comme on veut, mais au long cours, sur un certain nombre d'années, où il y a une stabilité, où on change l'ensemble de la politique fiscale liée à l'immobilier. Parce que n'oublions jamais que pourquoi nous avons besoin de ce système, de ces systèmes d'accompagnement en France, c'est parce qu'on a la fiscalité immobilière la plus lourde de l'OCDE. Mmh. Ça a été encore redit il y a quelques jours. Donc, soit on fait le grand soir fiscal, on inverse la fiscalité immobilière, on la met de droit commun, j'allais dire, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'aide, soit effectivement, pour continuer d'atteindre l'objectif et surtout de répondre à la demande, parce qu'il faut rappeler qu'il manque du logement dans notre pays, eh bien, il faudra continuer d'accompagner nos compatriotes pour les solvabiliser au niveau financier. Mais encore une fois, le faire aujourd'hui avec des taux qui sont faibles coûterait moins cher à l'État que de faire un grand plan de relance quand si jamais la construction recommence à diminuer dans 2 ou 3 ans.
Question, pourquoi est-ce que ça va bien, en fait, le bâtiment ? Expliquez-nous.
Parce qu'il y a un besoin. C'est vraiment
tout bête. Parce qu'on se pose les questions. Les chiffres étaient très mauvais. Et puis maintenant, les chiffres de logement étaient mauvais. Et là-dessus, vous allez très bien. Donc, il y a quelque chose qui m'étonne.
Les chiffres de permis et de mise en vente ont vraiment baissé.
Oui,
mais n'oublions jamais que dans notre pays, nous manquons de logements. Nous avons plus de 30 millions de logements à rénover. Il y a un besoin. Quand il y a un besoin, il y a un marché. Il faut simplement être capable d'accompagner ce marché pour qu'il puisse être mature économiquement. Soit effectivement grâce à des niveaux de prêts très bas, soit des systèmes d'aide à la pierre, qui sont nécessaires pour beaucoup de nos compatriotes. Voilà, vous savez, c'est simple, le marché du logement, c'est presque mécanique, simplement c'est un équilibre fragile. Et je suis toujours un tout petit peu dubitatif, voire inquiet, lorsqu'il y a des grands coups de zig et de zag sur une politique, on a un système qu'on arrête en fin d'année, qu'on rogne l'année suivante.
C'est pour ça qu'on peut se demander si on a vraiment besoin d'une politique de logement.
Ah,
pardonnez-moi,
oui,
parce qu'à chaque fois, chaque nouveau ministre a sa nouvelle réforme, finalement, on voit que c'est toujours aussi complexe.
On ne peut pas dire que lorsqu'il manque, je pense qu'il y a un accord de place là-dessus, 1 million de logements en France, qu'on n'a pas besoin de politique du logement. Le logement est une priorité dans ce pays en termes d'équipement. On a une démographie qui est positive, on voit bien qu'on a un aménagement du territoire qui est en train de se redessiner. La politique du logement est une politique essentielle dans le développement d'un pays, d'accompagnement économique, mais pas seulement, d'aménagement du territoire aussi. C'est pour ça que tous les territoires ont besoin d'un accompagnement spécifique pour leur permettre de se développer. On ne peut pas pleurer sur ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et autres et le sentiment d'abandon.
Ah, mais là, c'est qu'il y a eu trop de logements individuels, construits des petits pavillons. Bah, c'est ce que tous les sociologues ont un peu analysé par rapport au mouvement des gilets jaunes. Quand même la France des pavillons à qui on leur a dit achetez votre logement, très loin de tout, et après on vous laisse tomber.
C'est pas qu'ils ont acheté leur logement parce qu'ils le voulaient très loin de tout, c'était le seul logement accessible. Cibles en prix pour eux. Donc il faut bien rééquilibrer un certain nombre de choses. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus imaginer un développement de notre pays à la Dubaï avec les grandes métropoles et le désert autour.
Ah non, ça c'est clair, oui. Mais justement, ça c'est des grandes tours en l'occurrence. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être sur l'apprentissage.
Oui.
Parce que là, c'est un point important. Et là, il y a une guerre fratricide entre la CAPEB, les artisans du bâtiment, et puis la fédération que vous incarnez, et puis avec la CFDT, parce que vous voulez la suppression de centres de formation. En tous les cas, c'est ce que j'ai lu, regardé, lu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, c'est des centres d'apprentissage que vous voulez fermer, 130 centres d'apprentissage.
Je sais qu'on est à l'époque des fake news, mais celle-ci, elle est jolie. Hein. C'est tout l'inverse. On veut
donc c'est
sauver
la CAPEB et la CFDT qui ont encore.
C'est en tout cas l'interprétation qu'ils en font. Ce que l'on veut, c'est sauver nos 130 CFA d'apprentissage, parce que c'est l'essence même de la formation dans notre secteur. Simplement, il faut que tout le monde se rende compte que les règles ont changé. La loi est là. La loi a changé. On s'en est ému de ce changement de loi. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, ce que l'on veut, c'est que à côté de l'OPCO qui a été créé, qu'il n'y ait pas une autre structure qui les même. Les mêmes objectifs, les mêmes missions que celle-ci. Ce que nous ne voulons pas, la Fédération, c'est ce que nous reprochons souvent à l'État, c'est l'accumulation de strates et de structures qu'il faut payer avec l'argent des entreprises et des artisans afin, soi-disant, d'encadrer le système d'apprentissage. Ce que l'on veut, c'est que l'argent aille directement dans nos CFA, dans les 130 CFA, et que ceux-ci puissent maîtriser leur politique de la formation. S'ils ont besoin demain d'une tête de réseau, ils se la créeront eux-mêmes pour mutualiser, Mais c'est après, certainement pas une structure.
On dit que vous avez présenté un document prônant la disparition justement du CCFA BTP.
Du 3CA BTP.
Voilà.
Oui, parce qu'ils oublient simplement de préciser que depuis, la loi a créé un OPCO qui a exactement les mêmes missions que les 3CA, ou du moins toutes les missions régaliennes. Mmh. Donc pourquoi conserver une structure à côté d'une qui vient d'être créée avec 80% des mêmes missions? Mais vous savez...
C'est une guerre d'égo.
C'est une guerre d'égo. C'est une guerre de recherche de mandat, et c'est surtout chacun gardant son chapeau à plume, mais ça je pense que c'est d'une autre époque. Et puis c'est surtout lié à la représentativité. Nous sommes effectivement l'organisation professionnelle la plus importante, y compris chez les artisans. Chez les moins de 10, ça a été une surprise
par rapport à la CAPEB,
par rapport à la CAPEB. Et ces histoires de représentativité ont totalement détruit toute forme de dialogue, parce que plus tout le monde est obnubilé par ça. J'ai hâte que ces calculs de représentativité qui ont lieu fin d'année soient derrière nous, afin que tout le monde revienne à la raison et travaille ce pourquoi, me semble-t-il, nos adhérents payent une cotisation, c'est pour qu'on défende leurs intérêts à eux et non pas des structures.
Oui, on voit qu'il y a du boulot, hein, parce qu'on parlait là aussi de la question des branches, lorsqu'on voit qu'on en est toujours à 450, il y en a peut-être 3 qui ont disparu, mais c'est tout, c'est incroyable. Quoi,
nous avions 44 conventions collectives dans le bâtiment, nous en avons plus que 4, et nous souhaitons, par exemple, nous, qu'il n'y en ait plus qu'une. Voilà, avec des spécificités pour les uns et les autres. Mais au bout d'un moment, simplifions pour éviter des complexifications pour nos entreprises et nos artisans.
Je pense que vous avez raison. Merci Jacques Chanu, en tous les cas, pour ce message optimiste sur la conjoncture. Dans un instant, on parlera d'Europe, puisque en ce moment même, Ursula von der Leyen est en train de, d'attribuer les différents portefeuilles de cette Commission européenne. On en parlera avec Guillaume Clossa, fondateur de Europa Nova. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il est avec nous, Guillaume Clossa, le fondateur d'Europa Nova. Guillaume, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là. Vous étiez déjà avec vos petits écouteurs, parce qu'en ce moment même, justement, Ursula von der Leyen est en train de donner la composition et l'attribution des portefeuilles de cette nouvelle Commission européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà, en l'occurrence ?
Répartition équilibrée des sièges entre les différentes nationalités,
oui,
et les différents États membres, avec deux vice-présidents exécutifs qui ont un rôle vraiment important dans la stratégie de Madame von der Leyen. D'un côté, Frans Timmermans, qui sera le vice-président en charge du Green Deal, donc le nouveau contrat environnemental européen. Von der Leyen veut que l'Europe soit le leader en matière de Green Deal et soit la première économie décarbonée du monde. Et c'est lui qui va piloter directement le poste de commissaire au climat. Et il aura une dizaine de commissaires avec lesquels il va travailler au jour le jour pour faire la transformation climatique et environnementale de l'Union européenne. Et puis, deuxième pilier de Madame von der Leyen, Madame Vestager, qui devient vice-présidente exécutive au contrat numérique, à l'âge digital, avec l'idée de faire de l'Europe la grande puissance numérique du monde de demain, et un rattrapage notamment sur le côté, ce qu'elle appelle business to consommateur, c'est-à-dire les grandes plateformes sur lesquelles les Européens sont complètement absents.
Et sur lesquelles elle a été très en pointe, hein, parce que c'est vraiment elle qui a été la première qui a sanctionné aussi quand même les GAFA.
Et Madame Vestager va contrôler, va travailler avec un certain nombre de commissaires européens, dont la commissaire française Sylvie Goulard, qui rapportera d'une certaine manière à Margaret Vestager. Et Madame Vestager garde la concurrence.
Elle garde la concurrence, c'est
la
question.
Elle garde la concurrence en direct. Après, se pose la question, bien sûr, du commissaire français.
Oui, alors Sylvie Goulard.
Sylvie Goulard n'est pas vice-présidente de la Commission européenne, mais elle a un poste de commissaire important, puisqu'elle récupère l'industrie, la nouvelle direction générale à la défense, aux industries de défense, qui avant faisait partie de l'industrie,
oui, donc
et le marché intérieur numérique. Donc, tout ça
est... Mais est-ce que le marché intérieur, qui était un poste aussi très important, est-ce qu'elle a le marché intérieur ou pas ?
Ça, c'est pas complètement
clair. C'est pas encore complètement clair dans la
liste de l'ensemble des commissaires n'a pas été définie. Mais a priori, marché intérieur et marché intérieur numérique devraient aller de pair, parce que le grand enjeu aujourd'hui, c'est la transformation du marché intérieur à la fois en marché numérique et en marché compatible avec les enjeux environnementaux, puisque le marché intérieur, en fait, c'est la définition des normes, des standards pour les industries et les services, et ces standards doivent aujourd'hui intégrer la dimension et numérique et environnementale. C'est vraiment le grand défi des 5 années qui viennent.
Donc on voit bien le digital et le tout ce qui est vert, politique verte, ça c'est vraiment les deux piliers qui sont importants. C'était les deux qui étaient d'éventuels aussi postulants à la présidence de la Commission européenne, en l'occurrence. Donc vous l'avez dit, Margrethe Vestager et Frans Timmermans.
Pour les libéraux et Frans Timmermans pour les sociaux-démocrates.
Voilà, donc c'est un bon équilibre. Ça vous semble plutôt un bon équilibre, cette commission telle qu'on la connaît, les grosses lignes, ligne de force, parce que c'est en ce moment même que on connaît le détail.
Le sujet pour Mme von der Leyen, c'est d'avoir le vote du Parlement européen sur la totalité de son collège de commissaires. Et pour ça, elle a besoin d'avoir un équilibre à la fois entre les États membres et entre les différents groupes politiques. Et là, Mme von der Leyen et PPE, c'est-à-dire le premier groupe au Parlement européen, la droite conservatrice et centriste, Madame Vestager est libérale, c'est le groupe Renew, Renaissance, et Monsieur Timmermans est social-démocrate. Donc ces trois groupes suffisent pour avoir une majorité. Le sujet, c'est que si on veut une majorité stable, il en faut un petit peu plus. Et donc, normalement, une des candidates à la Commission européenne, au poste de commissaire, est verte. Ce qui permettrait d'avoir aussi le soutien de tout ou partie du groupe vert. Attendons de voir le portefeuille que va avoir la commissaire verte.
En l'occurrence. On retombe un petit peu dans la tambouille politique là ou pas? Parce que c'est vrai, la Commission européenne est un tout petit peu...
La Commission européenne, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est une commission qui doit avoir le soutien à la fois du Conseil européen et donc des États membres et du Parlement européen pour pouvoir bien fonctionner. Et donc le sujet, c'est de trouver un équilibre, mais c'est plus un sujet de personnes de qualité qui ont une personnalité, un engagement, des compétences, que de véritables tambouilles politiques où on nomme des gens à des postes sans regarder leurs compétences et leurs capacités. Et ça n'a rien à voir avec, très souvent, les nominations au niveau des gouvernements nationaux. Donc la qualité de nomination est généralement bien meilleure à la Commission européenne. Et puis, contrairement au niveau national, les commissaires, pour être investis, doivent passer des auditions. Ça, c'est pas du tout le cas dans les autres États membres. Donc, ça garantit quand même une qualité des commissaires, une connaissance des sujets qu'on connaît rarement pour la plupart de nos ministres.
Question comme ça, parce que ce soit Bruno Le Maire, différents décideurs politiques disaient tous qu'il faut changer la politique de la concurrence menée par la Commission européenne. Si c'est la même... Margrethe Vestager, qui est une femme formidable en l'occurrence, mais si c'est la même, est-ce qu'elle va complètement faire le contraire de ce qu'elle a conduit jusqu'à présent ?
Soyons très clairs. La politique. Alors, d'abord, c'est Monsieur Le Maire dit il faut changer. Mais quelle proposition concrète a fait Bruno Le Maire ? Et il est important que les États membres aussi fassent des propositions concrètes pour ces changements. Deuxièmement, la politique de la concurrence est en partie encadrée par les traités. Ouais. Et donc, c'est aux États membres, c'est pas à la Commission de changer les traités. Et puis, tertio, Madame Vestager et moi, comme conseiller spécial de l'ancien vice-président numérique, Andrew Sandzip, j'ai participé aux travaux de Madame Vestager pour penser l'avenir de la politique de concurrence à l'époque numérique. Et donc, c'est elle-même qui a initié la réflexion pour voir comment on pouvait faire évoluer la concurrence. Et dans un rapport que j'ai fait pour le président Juncker et pour la Commission et le président Anzip, j'ai fait un certain nombre de propositions pour faire évoluer la concurrence, notamment à l'ère numérique. Aujourd'hui, on n'est pas capable de réguler les plateformes, les grandes plateformes mondiales américaines et chinoises qui captent une grosse partie de la valeur économique créée en Europe. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nos emplois en Europe, pour notre capacité d'innover et pour notre existence de la mondialisation.
Vous pensez que de ce point de vue-là, on peut avoir une taxe GAFA au niveau européen? On a été incapable de la mettre en place.
Mais la taxe GAFA au niveau européen, ce n'est pas une affaire de concurrence, si je puis me permettre. Il faut un régulateur européen en matière de concurrence. Mmh. Il faut un concept de plateforme systémique, c'est-à-dire ces grandes plateformes mondiales qu'on puisse réguler de manière beaucoup plus souple qu'aujourd'hui et qui doivent obéir à des règles plus forte que les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, quand on a développé le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, il concerne de la même manière une start-up que Google ou Amazon. Google et Amazon ont plus de moyens de s'adapter que nos petites entreprises. Donc, il faut une régulation différencier. C'est ça l'enjeu. Après, pour la taxe GAFA, je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a une vingtaine, 23 sur 27 membres de l'Union européenne qui étaient prêts à y aller. On commençait à très très peu, donc il faut finir ce travail, et il y a différentes manières d'accélérer la mise en œuvre. La Commission peut très bien adopter une proposition de règlement que certains États membres peuvent vouloir implémenter, et ça créera une dynamique.
Guillaume Clausel, lorsqu'on voit que les deux piliers étaient déjà dans la précédente commission, donc là, il y a Sylvie Goulard, c'est confirmé, marché intérieur, industrie, défense, mais est-ce que ça peut vraiment être... Parce qu'il y a un enjeu énorme pour l'Europe, pour l'Union européenne, aujourd'hui, avec la Commission européenne. Il faut retrouver, redonner goût un peu aux citoyens, le goût de l'Europe. Il y a un peu une nouvelle définition aussi sur le plan numérique, on en a touché un mot sur le plan industriel. Est-ce que c'est avec les mêmes, on recommence, qu'on pourra changer, en l'occurrence Timmermans et Vestager.
Écoutez, l'un comme l'autre...
C'est un peu de provoque, mais c'est logique.
Très clair. L'un comme l'autre sont des gens de qualité.
Et de haut niveau.
Et de très haut niveau, de grande expérience. Ils ont eu du courage et sont respectés pour ce qu'ils ont fait. Frank Timmermans a mené la lutte contre la montée des populismes quelque part, notamment en Hongrie et en Pologne. Et comme vous le savez, il n'est pas apprécié d'un certain nombre d'États membres pour son courage en matière démocratique.
C'est pour ça justement qu'il n'a pas pu être élu.
Madame Vestager a eu le courage d'imposer un certain nombre d'amendes au GAFA et d'initier la réflexion que je vous ai dite sur les règles de concurrence de l'avenir. Donc ce sont des piliers importants. Après que l'Europe, de manière générale, aussi bien le Parlement européen que les États membres, que la Commission ait besoin de personnalité, qu'il y ait une vraie vision européenne, qu'il y ait du charisme et qu'il y ait une capacité d'engagement, je ne peux être que d'accord avec vous. Et il est vrai, quand on regarde les listes, la manière dont les gens sont choisis, que ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est la responsabilité en grande partie des politiques nationaux.
Ouais. L'équilibre, est-ce qu'on peut dire déjà que la France est en position de force? Parce qu'on n'a pas de vice-présidence, Sylvie Goulard a un poste important. Alors certains disent les Français sont un peu absents, puis d'autres au contraire, que Emmanuel Macron, c'est vraiment lui qui a nommé les quatre postes clés entre la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment lui qui a poussé et insufflé ces noms-là, ce sont ses amis, et donc il est en position de force.
C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
D'accord.
Parce que quand quelqu'un considère qu'il vous doit sa nomination, il doit s'émanciper. Et donc, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ces personnalités ont des vues stratégiques qui sont compatibles avec celles d'Emmanuel Macron pour le développement de l'Europe. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose. Mais l'influence, elle n'est pas aussi directe. C'est pas parce que Emmanuel Macron a poussé certaines nominations que ces gens lui sont redevables. Ils ont été aussi nommés parce qu'ils ont les qualités pour les
postes.
Et ensuite, Sylvie Goulard a un portefeuille qui est stratégique.
Ouais.
Le marché intérieur et l'avenir de l'industrie européenne, c'est l'avenir de notre croissance. Et moi, je suis à peu près convaincu que dans les 18 mois qui viennent, on aura une crise économique. Il faut qu'on ait un marché intérieur le plus robuste possible, avec un potentiel de croissance le plus élevé possible. C'est la responsabilité de Mme Goulard. Et maintenant, il faut qu'elle délivre une feuille de route et une vision pour ce marché intérieur.
Merci beaucoup. Merci d'avoir décrypté en direct avec nous Guillaume Clausel, donc le fondateur d'Europa Nova. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans un instant. Là aussi, c'est d'actualité. C'est le budget 2020. On en parle avec Gilles Carrez, ancien président de la Commission des Finances, député de La République En Marche, non, LR, La République tout court, du Val-de-Marne. Allez, à tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Et juste avant le journal, j'en profite pour présenter notre invité Gilles Carrez. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'expert S-Budget, budget 2020, oui. C'est pour bientôt. Vous nous direz comment vous voyez tout ça. Et puis, bien sûr, on parlera du référendum d'initiative partagée de l'ADP que vous portez. Mais c'est un petit peu plus compliqué là, pour le coup. Mais tout de suite, c'est Julien Rizzo pour le rappel des titres.
La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé les portefeuilles des 26 membres de son équipe. Sylvie Goulard obtient en plus du portefeuille du marché intérieur la défense défense et l'espace. Le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans est chargé du climat, tandis que la libérale danoise Margrethe Vestager reste à la concurrence. En France, l'emploi salarié a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Près de 46 000 emplois ont été créés dans le secteur privé, c'est un peu moins que les prévisions. Dans le détail, les créations d'emplois se stabilisent dans l'industrie et dans la construction. Le déficit public français devrait se situer autour de 2,1-2,2% selon le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Il s'agirait d'une baisse significative par rapport aux 3,1% attendus. Carlos Ghosn n'exclut pas des défaillances de groupes automobiles dans la décennie en raison des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2. Le président de PSA a également déclaré que le groupe n'a pas besoin d'un accord avec un autre constructeur.
Carlos Tavares.
Oui. Le CAC 40 perd à la mi-journée 0,4%. Il se situe à 5560 points. Et puis l'euro dollar reste stable. 1 euro s'échange 1,10 $.
Merci Julien. Tout de suite, Gilles Carrez. Le budget 2020, est-ce que c'est un budget ancien monde ou nouveau monde?
Bientôt sur BFM Business, Impact PME avec Philippe Bloch.
Impact PME, c'est l'association de la CPME et de BFM Business pour 3 mois d'émissions hebdomadaires diffusées sur notre antenne. Mais aussi bien sûr un grand événement inédit le 5 novembre prochain au Conseil économique, social et environnemental qui réunira 3000 dirigeants de PME à la recherche d'outils et de solutions pour affronter sereinement les défis qui les attendent dans les mois et les années à venir.
Impact PME avec la CPME, le premier événement entièrement dédié aux PME, le 5 novembre sur BFM Business.
Il vous reste 3 mois pour atteindre vos objectifs. Compass, le spécialiste de la prospection, booste l'efficacité de votre base de données, conseils, mise à jour et enrichissement. Contactez-nous pour un audit gratuit et sans engagement de votre base de données. Compass, K-O-M-P-A-2-S, le business efficace.
Vous habitez Lyon ou sa métropole et voulez être informé en temps réel? C'est pour ça que BFM a créé BFM Lyon. Avec BFM Lyon, priorité au direct, actualité, météo, trafic et vie lyonnaise sur votre télé ou votre smartphone. Retrouvez BFM Lyon sur le canal 30 de la TNT et sur les box opérateurs. BFM Lyon, info, trafic et météo.
Mes amis, au secours!
L'abbé Pierre a laissé un héritage inestimable. Faites comme lui. Poursuivez son action auprès des plus pauvres, en léguant tout ou partie de votre patrimoine, en souscrivant une assurance vie ou en faisant une donation en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Demandez une brochure ou prenez rendez-vous au 01 55 56 37 27. Plus d'infos sur fondationabbépierre.fr.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction. Emploi, vie de bureau, entreprise, bourse, tech, argent, immobilier. Sur bfmbusiness.com, regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique en temps réel. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet.
Demain, Le Parisien se met au vert. Découvrez notre numéro spécial environnement. Un reportage inédit au Groenland, en première ligne du réchauffement climatique, une grande enquête sur la qualité de l'air dans les écoles. Retrouvez au fil des pages des initiatives inspirantes et les bons gestes au quotidien pour préserver la planète. Le Parisien est aujourd'hui en France, numéro spécial environnement, demain chez votre marchand de journaux.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est celui qui connaît le budget par cœur, Gilles Carrez. Encore une fois, merci d'être avec nous.
Merci.
Donc, ancien président de la Commission des Finances, ancien rapporteur, ancien, mais aujourd'hui, en tous les cas, député La République, Les Républicains du Val-de-Marne. Gilles Carrez, il y a beaucoup de sujets à voir avec vous. Vous avez fait un rapport sur l'état des cathédrales en France. C'est une véritable catastrophe, donc vous avez tiré la sonnette d'alarme. Il y a le budget, mais peut-être un mot quand même, puisque vous avez fait partie, aux côtés des écologistes, la France Insoumise, des socialistes, vous avez signé cette volonté d'obtenir ce référendum d'initiative partagée que vous avez obtenu sur la privatisation d'ADP. Bon, c'est un peu du rail, hein, donc visiblement, ça, vous avez autour de 700 000 signatures, il vous en faut plus de 4 millions, c'est ça ?
Oui, l'objectif, clairement, c'est de dépasser largement le million de signatures.
Oui.
Le million, c'est le chiffre qu'a assigné Emmanuel Macron lui-même au futur référendum dans la réforme constitutionnelle qu'il veut faire voter.
Il y a donc beaucoup moins qu'aujourd'hui.
C'est considérable. Et surtout, ce qui me frappe, là, j'ai distribué un tract que j'ai fait dimanche sur les marchés, c'est le soutien quasi unanime que nous avons. Les personnes, nos concitoyens, ne sont pas au courant, et ça, on ne peut pas leur reprocher, puisque...
Attendez, on en parle beaucoup, on en parle dans tous les médias.
Le gouvernement s'est ingénié pour qu'il n'y ait aucune information officielle. Il n'y a aucune information officielle. Et j'aimerais savoir si vous-même, vous avez essayé de voter. Est-ce que vous avez été sur le site?
Non, je reconnais que non.
C'est d'une complexité...
J'étais sur le site extrêmement compliqué. Si, avant les vacances, j'ai essayé.
Tout a été fait pour que ce référendum soit d'un accès le plus difficile à nos concitoyens. Mais quand on parle à nos concitoyens de cette question, quand on leur dit voilà, on va en fait léser gravement le contribuable parce qu'on vend une entreprise au privé qui marche très bien, qui fait des bénéfices, on a des enjeux d'aménagement du territoire, eh bien il y a une adhésion quasi totale. Donc moi je mets en garde le gouvernement parce que quel que soit le nombre de Français, on dépassera le million, ce dossier, si le gouvernement s'entête, va constituer pour lui un énorme problème.
Mais vous avez perdu la bataille? Vous estimez que vous avez perdu la bataille, là?
Non, je pense.
Sur le référendum d'initiative partagée.
Vous savez, un électeur sur 10, mais la barre est... extrêmement haute. D'ailleurs, la réforme de 2008 avait été faite un peu pour pas pouvoir s'appliquer. Ce qui est très important, c'est que contrairement à ce que pensait le gouvernement, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Je rappelle que j'ai lancé cette initiative avec Valérie Rabault, ma collègue du groupe socialiste. Pourquoi ? Parce que moi, je m'étais opposé à la privatisation des autoroutes en 2005, quand j'étais rapporteur du budget, en vain. Mais toute la suite m'a donné raison. Valérie Rabault et moi, nous nous sommes opposés aux modalités de cession de Toulouse à un fonds d'investissement chinois. La suite nous a donné raison. Je rappelle que les Chinois ont disparu quelques jours après et qu'ils n'ont pas fait un euro d'investissement.
Non, mais ça donc, c'est pas un bon argument. C'est un bon argument, mais prenez aussi alors celui de Lyon-Saint-Exupéry, qui a été... à Laurent Wauquiez, donc
Lyon n'est
président.
Pas, Lyon n'est pas un
c'est
aéroport.
C'est géré par Vinci, aéroport.
Lyon n'est pas un aéroport stratégique.
Orly-Roissy, vous avez vu comme moi, le meilleur...
C'est 60.
La meilleure gestion des aéroports, là, il y a un classement qui vient de sortir, c'est Lyon-Saint-Exupéry.
Orly-Roissy, c'est 60% du trafic international. Orly-Roissy, c'est le hub d'Air France. Si on veut mettre en danger notre compagnie nationale, laissons des intérêts privés passer sur la gestion, contrôler la gestion aéroportuaire. Dans la gestion d'un aéroport, il y a deux choses.
Oui.
Il y a la gestion des boutiques, des commerces.
Ben voilà, c'est la privatisation, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord pour qu'on privatise.
Mais
il y a la relation avec les compagnies aériennes, il y a
l'affectation
des créneaux aérien.
Ça, c'est une prérogative de l'État.
Des terminaux...
Les créneaux sur les slots.
L'autorité aéroportuaire a un poids décisif sur ce type de sujet.
Mmh.
Et par ailleurs...
Non, c'est plus la question d'aménagement du territoire. Là, vous avez
exactement,
un bon point. Là.
Nous avons 87 lignes qui sont des lignes intérieures. Le seul aéroport international dans les pays développés qui était privatisé, c'est Heathrow. Aux États-Unis, les grands aéroports sont publics. En Allemagne, aux Pays-Bas,
Heathrow marche très bien. Heathrow
reste sous contrôle public. Non, parce qu'à Heathrow, vous n'avez plus que 10 lignes intérieures. Si on veut que dorénavant ni Pau, ni Rodez, ni même Toulouse ne soient desservis par notre aéroport Paris-Roissy, eh bien, privatisons-le. Parce que l'intérêt pour un groupe privé qui contrôle un aéroport de cette taille, c'est de faire atterrir le maximum de gros porteurs avec le plus de voyageurs possible, qui passent le plus de temps avec le plus de pouvoir d'achat.
Dans la loi de privatisation.
Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. La suite m'a donné raison. Je suis logique. J'ai été contre la privatisation des autoroutes. Tous les rapports de la Cour des comptes de l'autorité de la
concurrence
la privatisation
des autoroutes
a été une erreur.
Et je vais pas défendre.
Et les Français me suivent sur ce sujet.
Gilles Carrez, vous avez raison. Les Français vous suivent. Mais en même temps, lorsque vous regardez, l'État n'a plus d'argent pour l'instant. Vous regardez les autoroutes. Lorsque vous quittez, vous payez le péage, beaucoup trop cher. On est d'accord. Hop, vous allez ensuite et vous voyez l'état des routes, notamment pour pouvoir accéder à Paris. C'est une catastrophe, en l'occurrence. Chérion, donc, il n'y a aucun investissement de l'État dans les infrastructures
que j'avais proposé en
routières.
2005, oui. C'est que l'État garde les autoroutes, affecte les dividendes qui sont énormes, affecte les dividendes à l'Agence de financement des infrastructures de transport pour que celle-ci ait les moyens financiers d'investissement.
Ah oui,
parce que là où vous avez raison, bah oui, on va en parler sur le budget 2020, l'État, aujourd'hui, il privilégie tout ce qui est dépenses de fonctionnement. Il ne veut faire aucune économie sur la masse salariale, sur les transferts sociaux. Il finance par la dette des dépenses de fonctionnement. Et au même moment, les dépenses d'investissement se réduisent comme peau de chagrin. L'État, tel qu'il est géré aujourd'hui plus que jamais, et on appelle ça bon, le nouveau monde, a une vision totalement court-termiste. Il ignore les intérêts de long terme.
Elle dit que c'est le privé. Voilà, c'est
non,
tout le débat.
Pas
c'est
sur le privé les, grandes infrastructures, peut... les grandes infrastructures de transport en situation de monopole doivent rester, à mes yeux, sous contrôle public. Et pourtant, vous me connaissez bien.
Oui,
j'ai toujours défendu les privatisations. Je défends les mécanismes de marché. Je pense qu'ils sont plus efficaces. Mais sur les grandes infrastructures de transport en situation de monopole, d'ailleurs, c'est l'enseignement de la théorie économique. Que vous dit la théorie économique, c'est qu'on ne privatise pas un monopole. Et là, on a vu les effets sur les autoroutes, sur la capacité d'investissement de l'État. Et croyez-moi, sur ADP, c'est encore pire sur les autoroutes. Parce que la concession, en fait, on devrait parler de confier au privé des concessions.
Oui,
parce que
c'est le cas, en l'occurrence. Ouais.
La concession sur les autoroutes, c'est 30 ans. Là, sur Aéroport de Paris, 70 ans.
Ouais.
Est-ce que Roissy existait il y a 70 ans ? Non. Est-ce que Orly existait il y a 70 ans ? Non. Ça veut dire que l'État abandonne pour très, 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 très longtemps ses compétences sur les aéroports.
Allez, on parle du budget.
Oui.
On a compris, vous avez toujours des arguments la dernière fois aussi. Hein, vous avez toujours des très bons arguments, Gilles Carrez, en l'occurrence. Gilles Carrez, projet de loi de finances 2020 présenté le 25 septembre. Ce matin, Gérald Darmanin disait le budget déficit va être entre 2-1, 2-2. Ouais. La croissance autour de 1,4. Vous avez déjà quelques éléments de ce budget 2020 ?
Bah pour moi, c'est très clair. Ce budget du Nouveau Monde, puisque
c'est l'ancien monde,
qui est le tel, il fait le choix du déficit et de la dette.
Ouais, il y avait un point d'interrogation quand même derrière.
Hein, il le fait de façon encore plus explicite que c'était le cas sous l'ancien monde. C'est vrai que les déficits budgétaires, on les a depuis longtemps. Mais un certain nombre de gouvernements ont fait des efforts. Je rappelle qu'entre 2007 et 2012, on a réduit de 150 000, 30 000 par an, le nombre de fonctionnaires de l'État. Il y a eu un vrai effort sur la masse salariale. Là, vous n'avez aucun effort d'économie parce qu'il y a une sorte de don du ciel. Le don du ciel, ce sont les taux d'intérêt négatifs. Quand l'État emprunte à taux d'intérêt négatif à 10 ans et même à 15 ans, comme ça s'est passé la semaine dernière, ça veut dire qu'il remplace de la dette qui vient à échéance. Parce que l'État a ce privilège de rembourser sa dette en s'endettant à nouveau. Donc il remplace de la dette qui était par exemple à 3 ou 4%, qui avait été contractée il y a une dizaine d'années, par de la dette à moins 0,15, moins 0,40%. Donc les frais financiers, les intérêts s'effondrent. Et on est dans ce paradoxe où, en 2020, dans le budget de l'État, on aura moins de 37 milliards de frais financiers, c'est-à-dire le même montant qu'en 2002, alors que la dette était deux fois inférieure en 2002.
Ouais.
Et donc, c'est une sorte de drogue.
Donc, ce budget, s'il fallait le qualifier, vous diriez quoi, Gilles Carrez ?
C'est un budget, on ne peut plus, laxiste, c'est un budget totalement court-termiste, qui me fait penser au proverbe, après nous, le déluge. Mais au moindre accident, comme on l'a connu en 2008 avec la crise financière. On était bien content en 2008 de partir sur des bases saines parce qu'il a fallu injecter de l'argent dans l'économie. Souvenez-vous, en 2009, l'Allemagne fait moins 2,5% de croissance. Moins 2,5. L'Allemagne s'est réendettée en 2009. Donc, on a pu, sous Nicolas Sarkozy, lancer ce grand emprunt. L'appréciation est plutôt positive. Bref, on avait encore des marges de manœuvre. Là, si une crise survient dans 2 ans, dans 3 ans, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. La France est totalement vulnérable. Et puis, il faut se comparer. Nous sommes les seuls dans la zone euro aujourd'hui à voir notre dette publique progresser en quantité, en valeur absolue. On va franchir les 100% du PIB, ça je vous le dis.
40 milliards le coût de l'intérêt, c'est la charge d'intérêt de 40 milliards.
Elle va être inférieure, je
elle,
dis.
Elle, oui, va, elle être, va être inférieure parce qu'elle va...
Elle va être peut-être à 36, 37 milliards d'euros.
Ça
coûte rien. Ouais. Alors pourquoi se gêner? Mais justement, un gouvernement responsable, il ne tient pas ce type de raisonnement. Il ne dit pas pourquoi se gêner, puisque la dette ne coûte rien, bah, allons-y. Non, un gouvernement responsable, il se dit, je prépare des jours qui seront de toute façon plus difficiles parce qu'il y a
oui,
des
mais
cycles économiques.
Les jours ont été difficiles, Gilles Carrez. Ils ont été difficiles puisqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, difficile de dire, je vais tailler dans le budget de l'éducation nationale, je vais tailler dans la justice, je vais tailler dans la police, je vais tailler dans l'hôpital. C'est compliqué.
Je ne porte en aucun cas une appréciation négative, contrairement à certains, sur les différentes mesures qui ont été prises à la suite de la crise des Gilets jaunes. Que ce soit l'anticipation de la fiscalisation des heures supplémentaires, le coup de pouce sur la prime d'activité, j'ai trouvé que c'était des mesures qui étaient bien calibrées. Donc, entendons-nous bien, et si notre consommation tient le coup aujourd'hui, si, comme je l'espère, on va être à 1,4% de croissance, je porte un jugement positif là-dessus, et finalement, j'approuve ce qui a été fait le gouvernement. Ce que je lui reproche, c'est pour 2020, de ne faire aucun effort d'économie, parce qu'on peut en faire. On peut en faire. Il a abandonné toute idée de réduction des effectifs. Et croyez-moi, sur 2 400 000 fonctionnaires d'État et des opérateurs de l'État, on peut quand même réduire davantage que quelques centaines. Sur les indemnités journalières. Il y a un renoncement partout. Rien sur des niches fiscales dont certaines sont vraiment totalement
lesquelles ? Sur le mécénat, regardez, ça hurle.
Écoutez, chaque fois, les niches fiscales abritent des lobbies, il faut le savoir. Et donc, il est légitime de leur part de se défendre. Mais si je prends l'exemple du mécénat d'entreprise, où vous avez un taux de réduction de 60%, où on est passé de 140 millions il y a 10 ans à près d'un milliard aujourd'hui, on aurait pu faire un effort. Et croyez-moi, ça n'aurait eu aucun effet sur le montant du mécénat. Parce que vous avez de grandes entreprises qui aujourd'hui n'utilisent même pas, qui font des dons, et c'est dans leur raison sociale. La raison sociale des entreprises, maintenant, s'est élargie, en tout cas pour les grandes, et donc, on pouvait faire des efforts là-dessus. Moi, je suis vraiment autant...
Sur quelle niche aurait-on pu faire des économies?
Notamment la niche du mécénat des entreprises.
Oui, mais pas ça.
Il n'y a rien du tout.
Bah si,
Le gouvernement avait annoncé, il y a 6 mois, en juin, souvenez-vous, 1,5 milliard d'économies sur des niches entreprises.
Ouais.
Il va réaliser que 550 millions en 2020. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce qu'au moindre retournement de conjoncture, on va être en grande difficulté. Par contre, je reviens sur les mesures qui ont été prises. Souvent, l'économie, parfois, c'est aussi le fruit du hasard. Faire des mesures de relance de la consommation en période de surchauffe, c'est une erreur. Le faire à un moment où l'économie internationale ralentit,
vacille.
Et notamment où ça vacille en Allemagne, ça a du sens. Donc, vous voyez, j'essaye de porter toujours des jugements équilibrés.
On parle beaucoup au niveau européen, parce que vous avez raison, ça vacille du côté allemand. La relance budgétaire, en tous les cas, on dit aux Allemands, vous avez des excédents budgétaires qui sont tellement énormes que c'est en train de pénaliser votre propre croissance, donc la croissance européenne, donc notre propre croissance. Vous entendez ça, cette relance budgétaire? Est-ce que vous dites,
pourquoi pas? Je pense que l'Allemagne, peut-être d'autres pays, peut-être au niveau européen, on a une capacité d'emprunt, à condition que cet emprunt aille à de l'investissement qui sert sur plusieurs générations. Ce que je regrette dans le budget français, on va emprunter là 50-60 milliards, les deux et quelques points de déficit. Mais les trois quarts de l'emprunt ne servent pas à des dépenses d'investissement, ils servent à payer les fonctionnaires à la fin de l'année. Ça, c'est très grave. Alors, en Allemagne, où il y a une capacité d'emprunt très importante, où il y a des besoins...
Il n'y a pas de financement d'infrastructures.
Il y a des besoins énormes sur les infrastructures de transport. Il suffit de prendre les autoroutes, d'aller en voiture en Allemagne pour se rendre compte des insuffisances qui sont criantes. Et donc, je pense que, soit par une approche nationale, parce que c'est aux Allemands de décider, soit l'éternel problème de l'emprunt européen, mais auquel je ne crois pas beaucoup. Moi, je crois plus à des approches nationales coordonnées. Je pense qu'avec des taux d'intérêt négatifs, on a intérêt à faire un gros effort sur les infrastructures de transport, sur l'innovation et sur la transition énergétique.
D'accord. Donc là, en fait, ce budget, vous n'allez pas le voter?
Ah non, non, je ne le voterai pas.
Oui. Parce on est vraiment dans l'ancien monde, là. C'est un budget, mais non, c'est un peu le retour, on laisse un peu tout déraper.
Dans l'ancien monde, je dirais même sous la précédente législature.
Donc c'est moins bien qu'un budget socialiste.
Ah oui, du point de vue économie, c'est moins bien. Je vous le dis, c'est encéphalogramme totalement plat. Il n'y a pas eu... je le sais, tous les arbitrages... Toutes les propositions de Bercy, parce que c'est le job aussi de Bercy de faire des propositions d'économie, elles ont toutes été annulées, repoussées, rejetées par M. Macron lui-même. Emmanuel Macron tient le raisonnement suivant. Je vais être candidat en 2022. Je fais le pari que les taux d'intérêt resteront très bas jusqu'en 2022. Donc, je ne fais rien d'ici là qui puisse provoquer
un nouveau
mouvement ou la colère des Français. Voilà. Mais si jamais il était réélu en 2022 et qu'on soit en crise en 2023, bon, il aurait eu raison, au sens où il aurait été réélu. Mais en 2023, le pays serait dans une situation épouvantable. Or, j'estime qu'un politique responsable ne doit pas raisonner qu'à court terme.
Là, à part votre voix, Gilles Carrez, c'est pour ça que vous êtes là, qui pour porter la contradiction au sein de l'Assemblée nationale?
J'allais parler du Sénat, j'ai entendu Gérard Larcher, il y a quelques jours, mettre en évidence le fait qu'on risquait d'aller dans le mur sur les finances publiques.
Oui, mais là, je parle de l'Assemblée nationale, parce que l'année dernière, vous aviez la France insoumise qui vous soutenait à la limite... Là, la France insoumise est un peu aussi exposée façon puzzle. Donc là, il reste que vous, mais vous êtes un peu tout seul quand même. C'est peut-être un peu la question, non, à l'Assemblée nationale.
Sur les sujets de finances publiques, on se sent un peu seul. Et puis, c'est vrai que c'est lassant de jouer les Cassandres. Par ailleurs, je l'avoue humblement, moi, je me suis trompé sur les taux d'intérêt. Quand je disais, il y a 10 ans, attention, les taux d'intérêt risquent de remonter. Quand je le disais à nouveau, il y a 5 ans. Quand je le disais l'an dernier. En fait, depuis 10 ans, ils n'arrêtent pas de baisser. Oui. Et maintenant, on est en taux négatif. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. On est dans une économie totalement anormale, qu'on n'a jamais connue. Donc, il y aura inévitablement des retours de bâton.
Oui, mais peut-être qu'en ce moment, c'est le moment, justement, d'éviter d'avoir des contractions d'effectifs, notamment sur le plan social, parce que l'impact que ça peut avoir est important.
Sur les administrations.
Vous êtes dans le Val-de-Marne, vous avez bien, vous aussi, les Gilets jaunes, vous avez connu ça.
Sur les administrations centrales, on peut faire des efforts. On peut, sur ce qu'on appelle la réforme de l'État, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a toutes sortes de rapports, d'études qui ont été faites.
Il y a CAP 22, il y a des suppressions de commissions.
On a plus de 1000 milliards de dépenses publiques. Moi, je suis persuadé qu'on peut dépenser mieux en dépensant moins. C'est une conviction. Il y a de multiples champs sur lesquels, avec un peu de courage,
c'est l'État profond qui résiste, c'est ce que dit le président de la République, parce que lui aussi, en tout cas, il a beaucoup dit ça. Rappelez-vous quoi, je crois que dans la première feuille de route d'Emmanuel Macron, je crois que le déficit en 2020, il devait être de 0,9%. Enfin, c'était ça les prévisions.
Exactement.
Les toutes premières prévisions.
Surtout, en 2022, on était en excédent.
Oui.
On était en excédent de 1 et quelques pourcents, alors que là, on va être encore en déficit public en 2022. Donc, en fait, il a complètement baissé pavillon sur ces sujets-là. Il a baissé pavillon. Et il est l'ancien monde, mais au carré, au cube même, chez lui,
ancien monde au carré,
ce renoncement, cet abandon du souci de la bonne gestion des finances publiques, il est encore plus marqué que chez ses prédécesseurs.
Oui, donc
et c'est une grande différence par rapport à nos amis allemands. Et je dirais même par rapport à nos amis espagnols.
Oui, mais les amis allemands, ils sont en train justement de créer un budget parallèle qui leur permettrait d'investir dans des infrastructures ou autre chose pour pas que ça rentre et que ça pénalise leur compte.
Comme ils ont fait des économies très importantes, ils sont désendettés. L'endettement de l'Allemagne est redescendu à 60% du PIB. Donc, ils ont des marges de manœuvre. Et ce qu'ils veulent, c'est que optiquement, les efforts qu'ils feront par différents moyens, procédures, ne soient pas trop visibles au sens maastrichtien. Pourquoi ? Parce qu'ils gardent la préoccupation de gestion des finances publiques saines et ils se disent, si nous-mêmes, ont donné le mauvais exemple, alors que les d'autres, comme la France en particulier, pensent surtout à la France, ne fait rien pour rééquilibrer ses finances publiques.
Il y aura des budgets parallèles, je ne sais pas si c'est en tous les cas
oui, la solution. Oui, je n'y crois pas trop. Moi, oui, je pense que ce sera réintégré.
Gilles Carrez, on dit un mot du rapport que vous avez fait sur l'état des cathédrales en France, suite à ce qui s'est passé à Notre-Dame. Et sur les 87 cathédrales qui appartiennent à l'État, 2 sont en péril et 13 en très mauvais état. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, aujourd'hui, depuis des années, et là je ne veux pas jeter la pierre à l'actuel gouvernement, depuis des années, depuis des décennies même, on consacre aux 87 cathédrales propriétés de l'État, on consacre une quarantaine de millions par an. Bon, ça n'est pas suffisant, parce qu'au fur et à mesure que vous différez des travaux, bon, ils coûtent ensuite de plus en plus cher. Alors, Notre-Dame a été un révélateur, mais Notre-Dame n'était pas la moins bien entretenue, loin s'en faut. Oui. Il y en a d'autres qui sont dans un état
Mauvais
critique.
Et lent.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, quand il y a eu cet afflux de générosité pour Notre-Dame, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un fonds pour l'ensemble de nos cathédrales et qu'on traite en priorité celles qui en ont besoin, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien entretenus. Il ne faut pas non plus avoir une vision trop catastrophiste du sujet.
Et donc là, ça va créer ce fonds.
Je crois que c'est en cours. Enfin, c'est une idée qui chemine. Elle est soutenue par beaucoup.
Merci beaucoup, puisque vous dites, on a entendu sur le mécénat, c'est des grandes entreprises. À la limite, ils n'ont pas besoin de cette exonération. C'est plus pour les PME en province.
Exactement.
C'est très important.
Exactement.
Merci beaucoup, Gilles Carrez, d'avoir été avec nous. On va suivre tous ces développements. Bien sûr, député Les Républicains du Val-de-Marne. Voilà, c'est la fin de l'orage. Bonne journée. Demain, rendez-vous 8h15 avec Cédric O, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique. Là aussi, beaucoup, beaucoup de questions à voir avec lui. Bonne journée.